bon midi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. On espère que vous avez eu du plaisir à écouter le Point de Max juste avant avec Max Larouche. Également, bien vous le savez, les matins, c'est Marceau le matin. Va suivre Gravel dans le retour. Saint-Denis, c'est Véro Audrey, Gab Marino cette semaine. Par la suite, Marceau le soir de 18h à 19h. Pour nous joindre en studio, 418-971-1021. Réagissez à ce qu'on dit. On aime vraiment savoir que vous êtes là et on aime connaître votre opinion. Également, blvd.fm, ça inclut la web radio et nos meilleurs moments. Le caucus avec Antonine Iaccarini qui arrive prochainement se retrouve toujours sur le blvd.fm à chaque jour après l'émission. Meilleure façon de nous écouter, l'application, parce que vous pouvez nous suivre partout. Donc, l'application BLVD 101, App Store, Google Play Store, est également présent sur twitch.tv/BLVD/FM. Et Pascal CV, que je salue, on dit écouter BLVD sur les haut-parleurs intelligents.
Exactement, puis aussi facilement que ça en plus.
Magnifique! Donc, vous êtes avertis pour pouvoir nous écouter. Ça va bien, Pascal CV?
Ça va très, très bien. J'ai l'impression, par exemple, de jamais réussir à... J'ai l'impression de toujours oublier quelque chose ces temps-ci. L'actualité, okay, là, ça cogne partout. Mm-hmm. C'est comme, je sais pas si vous pouvez avoir l'image dans votre tête, là. Ton petit frère, ta petite soeur, n'importe qui serait agassant, là, qui te tape sans cesse sur l'épaule. Puis là, tu te reviens, puis il y a tout le temps quelque chose. Là,
tout le temps quelque chose qui arrive.
Mais sans cesse, les deux petits doigts sur ton épaule. C'est ça, en ce moment, avec l'actualité. Que ce soit aux États-Unis, dans le monde, ou ici, dans n'importe quel des paliers gouvernementaux. Mm-hmm.
Yes, t'as entièrement raison et l'actualité ne fait pas défaut aujourd'hui encore une fois et il y en a un qui est dans le trouble, c'est François Legault et on va en parler avec Antonine Iaccarini dans
le caucus. Le caucus 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine, on va parler de François Legault, mais avant, ces grosses journées de budget fédéral, as-tu hâte? Écoute, il y en a un qui se pouvait plus hier, il a fait ses souliers.
C'est vraiment le moment de dévoiler les fameux souliers qui ont été faits ici à la main, les fameux souliers du ministre des Finances, qui sont les mêmes, comme je disais, qui sont portés par nos agents de la GRC à travers le pays, faits à la main ici. Puis là, je vais les essayer, je vais même le faire avec vous, vous allez voir, on va faire ça ensemble.
Hey, il les a essayés toutes, il les a faites, la vie est belle. Puis ça, c'est du quoi, Anto? C'est extraordinaire, parce que compte tenu que c'est les souliers que le ministre va porter, c'est un investissement.
C'est un investissement. Woohoo! Mais je l'ai toujours dit, du linge, c'est un investissement.
C'est un investissement.
Qui t'a cru, mettons, parce que...
Mais non. Mais...
Alors là, les souliers, c'est un investissement. Oh, c'est-tu pas beau? On va pouvoir rentrer ça dans la colonne des investissements et là, ça ne sera pas un...
Mais c'est une belle
déficit.
Tradition, tu sais. Comme aujourd'hui, t'as mis des souliers un peu funky. Antonine, est-ce que t'avais ça en tête, toi, le budget ou
non,
pas du
fait,
tout?
Non, en fait, tu veux pas savoir comment je me suis retrouvée bien de même tantôt.
Ça ne sera pas dans le déficit, les souliers du ministre? Parce que compte tenu que c'est un investissement...
Ben, dans l'économie locale.
Dans l'économie locale, on va mettre ça à part parce qu'on stimule l'économie, ça donne des retombées économiques. Donc, on peut dépenser à l'infini.
Ben, c'est ça. Mais c'est ça que je dis quand j'achète du linge. Quand je m'achète du linge, dans le fond, t'sais, ton apparence, c'est un investissement parce que là, les gens te prennent peut-être plus au sérieux.
Beaucoup
si
de gens en marketing diraient qu'elle a raison. Là. C'est considéré.
Ah, oui. Ouais. Hey.
OK, quand tu fais un budget...
Ouais.
Puis je me rappelle, là, j'ai vraiment une pensée pour mon ami Jean-François, qui était conseiller économique à l'époque. Il s'appelle Jean-François, mais pas Fortin.
Ça, OK.
Et je me rappelle, on était dans une rencontre, puis on était en train de budgéter un projet qu'on voulait proposer. On était dans l'opposition, tu sais, fait qu'on a le droit de tourner un petit peu les coins ronds dans l'opposition, mais pas trop non plus. Puis là, le chef en question, il était là, « Non, mais ça, tasse-moi ça dans la colonne. Mets-moi pas ça dans la colonne des dépenses. C'est un investissement. Ouais. » On était en train de monter un projet de transport pour Montréal, OK? Puis là, Jean-François, il disait, « C'est pas un... Il n'y a pas de telle chose qu'un investissement. Okay? » On fait de la comptabilité, il y a des dépenses, il y a des revenus. Mais il n'y a pas de dépenses que c'est pas vraiment des dépenses.
Bon, là, t'es-tu en train de me dire qu'on va vraiment être en déficit entre 75 et 100 milliards?
Je l'aime, moi, ton Jean-François.
Oui, il y a une bonne façon de résumer. Il en manque.
Hey, parle-moi d'une couple de tes dépenses. Parle-moi-en.
Ben, mettons un char, c'est une dépense.
Un char? Ah, un char, ouais. Ça pourrait être vu comme une dépense, mais non. Ça va être un investissement. divertissement.
Ben non, parce que ça t'amène à quelque part.
Exactement. Donc, que... vu que ça t'amène à quelque part, oui. puis à ce quelque part-là, ça te permet de dépenser. Il y a des retombées économiques avec ton char. Tu investis dans l'économie de ton pays.
Puis ça augmente les revenus du gouvernement. Puis après ça, il nous envoie des
oui,
chèques.
Parce qu'il y a des taxes sur l'essence. Il y a des taxes à l'immatriculation.
Ben justement, c'est des dépenses, ça, Jean-François, non?
Non. T'investis dans la communauté. Après ça, on va pouvoir prendre cet argent-là, le donner à des banques alimentaires et on va nourrir les gens. Donc, ton auto, avec la taxe à l'essence que tu payes, c'est un investissement.
C'est beau, hein? C'est beau, cette nouvelle comptabilité. Moi, je trouve pas que fait, c'est hein? de la comptabilité positive.
Ben oui, j'aime ça.
Ça nous met de bonne humeur.
Hey, gars, comment je suis heureux. On va avoir le plus gros déficit de l'histoire au Canada. Chut, et je suis heureux.
C'est-tu vraiment si gros que ça, un déficit de 100 milliards? Écoute, là, aujourd'hui, une des informations qui a coulé là, de ce budget, c'est qu'il va y avoir 50 milliards pour des infrastructures. Fait que là, on est rendu dans des centaines de milliards. On pitche des chiffres comme ça, c'est extraordinaire. Et à force d'avoir fait tourner le chiffre 100 milliards pour le déficit, moi, je pense qu'on va arriver un peu en dessous. Puis là, tout le monde va être habitué. On a été vaccinés dans les derniers mois parce qu'on nous a fait miroiter qu'il y aurait de toute façon un déficit qui est énorme.
Et alors là, qu'est-ce qu'on va avoir fait du côté du Parti libéral du Canada? L'austérité! Ouais. Parce qu'on sera pas à 100 milliards, on va être, mettons, à 83.
Exact.
Fait que là, vous voyez comment on a pris soin des finances efforts. Publiques. Les efforts qu'on a fait, c'est 17 milliards de compression.
Et puis, ces compressions-là, tu as raison, c'est l'autre chose qu'on veut surveiller aujourd'hui, outre le chiffre du déficit. Puis d'ailleurs, tu sais, même s'ils mettent ça dans des investissements, puis on sait compter, là. Je veux dire,
ben oui.
En tout cas, moi, je ne sais pas vraiment compter, mais il y a des comptables qui savent compter, qui vont nous le dire en cours de journée, c'est quoi le chiffre final. Fait qu'on va pouvoir comparer avec les années précédentes, je ne suis pas trop inquiète.
En passant à Annick qui écrit, vous me donnez le goût d'aller magasiner pour investir.
Investissez, les amis.
Annick, va investir, puis si ton chum n'est pas content... Dizzy qui nous écrivent, on va y expliquer la théorie Carnet-Champagne.
Pas la théorie, la réalité de la comptabilité positive.
T'as raison.
C'est un nouveau concept. Puis moi,
hey, j'aime ça, moi, parce que moi, je dis toujours que je suis good vibes only.
Et voilà.
Alors là, je suis maintenant rendu comptabilité positive.
Hein?
J'ai hâte d'expliquer ça à ma blonde.
Oui, tu me diras ce qu'elle t'a répondu.
J'ai hâte de lui dire, écoute chérie, je suis allé encourager le commerçant local, je suis allé boire 3 pintes de bière à la taverne.
J'ai investi dans l'économie locale.
J'ai investi dans l'économie locale.
Et voilà.
J'aime ça.
Autre élément qu'on va surveiller, c'est effectivement l'austérité, parce qu'on va avoir un budget qui est déficitaire et austère, ce qui est vraiment pour déplaire à tout l'univers. Bon, je fais de la poésie aujourd'hui. Et ce qui fait en sorte aussi que les partis d'opposition, il n'y a personne qui va être content de ce budget-là. Parce que du côté du NPD, ben, de voir de l'austérité, alors qu'on est très proche des syndicats notamment, puis on ne veut pas couper dans la fonction publique, j'aimerais rappeler qu'on a rajouté 100 000 fonctionnaires au fédéral dans les dernières années. Hein. C'est incroyable. Toutes les annonces qui ont été faites par Justin Trudeau qui faisaient en sorte qu'il y avait de l'embauche de fonctionnaires.
Attends, je suis Don Davis, le chef par intérim du NPD. Couper un emploi, c'est couper les services à la population.
Hey, excuse-moi, là, mais le fédéral, c'est même pas supposé de donner des services à la population. Je suis tellement à bout de ça, là. Justin Trudeau, là, s'il s'était occupé de Postes Canada, puis des trains, puis d'Immigration Canada, puis des passeports, puis de l'Agence du revenu, ben au lieu de s'occuper, par exemple, de nos hôpitaux, puis de planter des arbres... Là,
du costumier de Radio-Canada.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, là, je veux dire, les fiascos de la bureaucratie fédérale, moi, c'est un des autres éléments par rapport à ce budget-là, puis par rapport à la différence entre Mark Carney et Justin Trudeau, c'est qu'il y a tellement un ménage à faire. Puis c'est dommage parce qu'on investit, entre guillemets, dans la fonction publique en rajoutant des fonctionnaires parce qu'on fait des annonces qui sont sexy, racoleuses avec les électeurs et tout ça. Là, on fait gonfler la fonction publique de manière pas très planifiée. Puis après ça, on arrive, puis là, il faut couper. Puis là, c'est sûr que ça se fait pas toujours intelligemment, là, les coupures. Là. Puis là, ça presse, puis là, on est sur le coin de la table.
Puis on n'est pas sur le terrain au quotidien, donc on ne sait pas ça sera quoi les réels impacts aussi dans certains portefeuilles.
Absolument. Puis on devient dépendant de ces programmes fédéraux-là. Mm-hmm. Quand le fédéral décide de couper, quand Harper est arrivé au pouvoir là, en 2006, là, puis qu'il s'est mis à couper, là, ça a fait mal aux provinces parce que tu finis par être habitué d'avoir ces programmes-là et tout à coup, le besoin, on a de la misère à le faire disparaître.
Bien, la preuve là-dedans, c'est que les ministres des Finances des provinces ont demandé 100 milliards en infrastructure.
Ben oui.
Mais pourquoi les provinces ne sont pas capables de développer leur propre infrastructure?
Oui. En fait, c'est normal que le fédéral fasse des transferts parce qu'il y a un déséquilibre fiscal au Canada.
Oui, mais là, tu es de demander 100 milliards quand tu sais ça va être quoi l'ampleur du déficit. Là, je me dis,
mais justement, Jean-François, c'est pas aux provinces de payer. C'est normal qu'ils fassent cette demande-là parce que moi, je pense que les provinces, là, ce serait bien passé d'avoir toutes sortes de foleries pendant les années de Justin Trudeau, qui ont coûté une fortune. Justin Trudeau a géré comme une cigale, là, pas comme une fourmi. Et là, on est face à des vrais défis. On a des infrastructures partout qui sont en décrépitude. Ouais. On a une économie qui est mise au défi. Puis d'ailleurs, investir dans les infrastructures quand l'économie est au ralenti, c'est la chose à faire.
En effet,
au Québec, étant donné le déficit d'argent fédéral en infrastructure, on a investi davantage, on s'est fait décoter. Hein, parce que le ministre des Finances s'est fait dire que
son budget
était trop... Il y avait trop d'argent qui était mis dans les infrastructures. Donc,
en même temps, il faut transformer nos infrastructures aussi parce que, veut pas, il y a les changements climatiques.
Changement climatique, adaptation au changement climatique et crise commerciale avec les États-Unis qui fait en sorte qu'on doit aller vers
ce qu'on veut pour
accélérer l'économie. Parce qu'on prévoit, les économistes prévoient des ralentissements économiques importants.
C'est vrai.
Puis, tu sais, c'est sûr qu'on revisite toutes les années Trudeau puis on se dit... On n'a pas été prévoyant.
Ah ben non, 9 ans de déficit, 9 ans de budget déficitaire, Justin Trudeau.
Avec pandémie, avec des enjeux importants.
La pandémie, c'est une des circonstances atténuantes des déficits.
Okay? Oui.
Parce que c'est une crise sans précédent. Tous les pays ont eu à faire face. C'est vrai que des fois, on embauche plus de gens en fonction publique quand le marché
de l'emploi ralentit. Bien, c'est clair. Oui, puis il y avait tellement aussi de services à donner qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix là, d'en engager.
Mais
là.
Garderie, soins dentaires, planter des arbres, commencer à vouloir s'occuper de santé mentale, toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport, que ce soit le fédéral qui gère. Et la bureaucratie fédérale, un dollar que tu mets dans la bureaucratie fédérale, c'est moins efficace que quand tu vas au niveau local.
C'est
clair. Ça devrait toujours être la dernière solution de faire des programmes qui sont gérés par le fédéral. C'est tellement loin du monde puis du terrain. Voilà.
Tu as raison.
C'est le prix qu'on paye en ce moment, c'est ça.
Puis en plus, avec Justin Trudeau, les programmes fédéraux sont devenus encore plus dans une entonnoir. C'est-à-dire que, OK, je vais vous donner de l'argent, mais à condition que ce soit ça, 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 alors que le fédéral n'a pas donné de conditions, que ce soit au municipal ou au provincial.
En mettant des petites conditions tout le temps.
On a un bon texto, justement, quelqu'un qui nous dit, puis là, on faisait beaucoup de sarcasme avec l'investissement et tout ça, mais qui nous dit, « Hey, faudrait peut-être donner une chance au gouvernement Carney. L'homme a quand même été à la tête de la Banque centrale d'Angleterre, celle du Canada, dans des contextes extrêmement difficiles. » En effet, il faut lui donner une chance.
Ben oui.
Puis, en effet... Il ramasse, lui, un panier de crabes laissé par Trudeau après un 9 ans d'inefficacité budgétaire.
Les conservateurs, aujourd'hui, là, après le budget, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est bien épouvantable. Puis que Mark Carney, là, il a doublé le déficit.
Puis il est comme Justin Trudeau.
Oui, ils vont dire ça. Mais dans les faits, là, c'est vrai que c'est pas lui qui a créé les conditions qui vont donner le résultat du budget qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
Il y a des efforts budgétaires à faire d'un côté pour baisser les dépenses puis réduire le déficit. Puis en même temps, on est face à une crise sans précédent par rapport aux États-Unis. Et les négociations piétinent. On n'a pas de résultats de ce côté-là. Puis tout ce qu'on a comme option, c'est de travailler sur l'économie intérieure, interprovinciale, puis de trouver des nouveaux marchés. Puis c'est ce qu'il est en train de faire. Puis
en
là-dessus,
effet.
Je suis assez d'accord.
Ça, ça se fait à plus long terme aussi.
Ben, c'est ça.
Moi, j'ai
ça se fera pas en deux minutes. Là.
Non, c'est ça. Moi, j'ai tendance à être impatient. Je me dis, voyons, il a été élu le 28 avril. Comment ça, il n'y a pas encore de résultats?
Mais j'ai jamais vu.
Puis en plus, c'est sensible,
c'est
ça dépend des autres.
J'ai jamais vu, en fait, un gouvernement fédéral aussi réactif, pour être honnête. Parce que, tu sais, moi, je faisais des jokes cet été avec Post Canada, puis je disais, en tout cas, on nous faisait des promesses encore, puis il se passait rien avec Post Canada. Puis quelques jours après, le gouvernement arrivait avec son projet de réforme de Post Canada. Et d'habitude, là, tu sais, le fédéral nous dit, ah, on est en train de regarder ça, puis trois ans plus tard, t'as aucune nouvelle, pas de son, pas d'image. Mm-hmm. Il y a d'autres dossiers sur lesquels c'est encore la même chose. Je regardais cette semaine, par exemple, les chauffeurs à rabais. Hey,
oui.
Ça fait déjà là, plusieurs semaines qu'on parle de ça. Du côté de Québec, on a commencé à régler la question des armes
avec les contrôleurs routiers.
Et les contrôleurs routiers. Mais au fédéral, il y a un bout qui leur appartient, c'est à l'Agence du revenu, qui est un fiasco total en ce moment. Ça
normalement, ça
sens.
Va faire partie là, des, du
on
budget
des
que François-Philippe
là-dessus.
Champagne nous a dit lundi.
Oui, mais si la solution, c'est d'embaucher plus de monde à l'Agence du revenu.
Ça sera pas, c'est ça.
Honnêtement.
Non,
c'est
on peut faire les choses différemment. Qui dit budget... Pour un gouvernement minoritaire, dit appui essentiel d'un parti de l'opposition. Je te laisse entendre Christine Normandin, leader parlementaire du Bloc québécois, en entrevue avec Mario Dumont ce matin. Elle remet la responsabilité sur le PLC pour peut-être des possibles élections.
Bien ça, malheureusement, le gouvernement a l'air d'avoir un peu annoncé ses couleurs. Le leader en chambre refusait de dire qu'il y avait des négociations alors que c'est son travail. Et c'est lui qui a lancé les menaces d'élection à Noël. C'est la job du gouvernement de ne pas nous envoyer en élection. Et s'il veut pas que ça arrive, bien qu'il présente un budget qui a de l'allure. Donc, de jeter l'opprobre sur les partis d'opposition, c'est comme la chose facile pour le gouvernement à faire. Mais j'ose espérer que la population comprendra que c'est au gouvernement. C'est lui qui tient le crayon du budget, là. C'est pas les opposition, c'est à lui de s'assurer que ce qu'il y a dans le budget est du bon sens. Et nous, c'est notre travail au Bloc québécois de voter pour ce qui est bon pour le Québec et contre ce qui est mauvais pour le Québec. Et ça ne changera jamais.
Je trouve que ça fait plein de sens ce qu'elle dit et je t'explique ma pensée. C'est que lorsque Mark Carney est élu dans un gouvernement minoritaire, immédiatement, les oppositions avec raison. Les conservateurs avec Poilievre, le Bloc québécois avec François Blanchette et le NPD de ce qui en restait, on dit on va collaborer avec le gouvernement, on est en pleine crise économique, on poussera pas le gouvernement en élection, on va être patient, faut travailler ensemble, l'unité canadienne. Puis tout ça faisait du sens le 29 avril au lendemain des élections. Mais le gouvernement a une responsabilité. C'est de pondre un budget qui va au moins satisfaire un autre groupe parlementaire. Là, on dirait que les libéraux, ils s'ajoutent. Ah ouais, on va y retourner en élection pour aller chercher notre majorité. Je me trompe-tu de penser ça?
Mais je pense que le gouvernement est très conscient que les oppositions n'ont pas envie de partir en élection.
Non,
donc, ils ne sentent pas la pression de négocier tant que ça avec les autres groupes parlementaires parce qu'ils ne sont pas fous puis ils voient bien là, qu'il n'y a personne qui a les moyens en ce moment de partir en élection. J'entends des gens qui disent peut-être que les libéraux voudraient, eux, aller en élection.
Oui.
Honnêtement, quelle mauvaise idée.
Bien, je pense qu'il irait s'il avait réglé la question avec Trump. Mais là, compte tenu qu'ils n'ont rien réglé avec Trump, oublie ça, ils ne peuvent pas aller en élection.
T'as quoi comme
rien.
Bilan? Aucune
zéro,
garantie
zéro,
d'aller
zéro.
Chercher une majorité.
Ben non.
Puis d'ailleurs, ça fait plusieurs gouvernements minoritaires de suite qu'on a. J'ai l'impression que nos groupes parlementaires ne sont pas capables de bien travailler en contexte minoritaire. Bon, avec Justin Trudeau, il y avait une alliance avec le NPD. Mais on n'était pas dans un mode de négociation avec tous les groupes parlementaires. On avait trouvé notre ami à qui on donnait des...
Le NPD.
D'ailleurs, il y a une partie du déficit qui leur appartient.
Ben
oui. Là,
vous voulez quoi? Vous voulez des soins dentaires, le NPD? Soins dentaires!
Et voilà! Fait qu'on négociait jamais avec le Bloc ou avec les conservateurs. D'ailleurs, le Bloc s'est battu l'année passée pour essayer, avec un Justin Trudeau à genoux, là, d'aller chercher des choses. Puis, ils n'ont absolument rien donné au Québec.
Oui, il avait essayé pour les aînés. Ça a été un coup d'épée
puis
dans
la gestion de l'offre, tu sais, que ça finit par cheminer un petit peu plus tard. Mais ceci étant dit, moi, je vois pas l'intérêt pour les libéraux de partir en élection, mais c'est sûr que s'il y avait des élections qui étaient déclenchées, parce que c'est un vote de confiance, évidemment, un vote sur le budget, bien, les libéraux, ils vont dire, bien, voyez, les groupes d'opposition ont voté contre le budget. Donc, on est dans une situation où personne n'a envie de voter pour. Les conservateurs n'ont pas intérêt à voter pour un budget avec un déficit de 90 milliards, OK? Puis ils n'ont pas d'intérêt de toute façon à voter jamais avec les libéraux. Après ça, le Bloc, c'est moins clair, pourrait vouloir collaborer. L'an passé, il y a eu de la collaboration, pas aussi formelle, mais on donnait là, une chance pour essayer d'aller chercher des gains.
Et là, c'est devenu le Bloc libéral.
Ben,
et PSPP a dit, on ne peut pas être amis avec Mark Carney, il y a eu de la chicane.
Et François Blanchet est sous pression, notamment de la part de son cousin Péquiste, pour ne pas collaborer avec Carney. Donc, on a déjà annoncé nos couleurs, on ne va pas voter pour un budget dans lequel il n'y a rien pour le Québec. Là, on va voir s'il y a quelque chose pour le Québec. Puis on surveille la réaction du Bloc à la sortie de la lecture du budget. Après ça, tu as le NPD. Le NPD, c'est assez de députés pour faire passer le budget. Le problème avec le NPD, c'est de voter pour un budget d'austérité. Parce qu'il y a des déficits et de l'austérité.
Il pourrait être malade le jour du vote?
Bon, donc, voilà. On en arrive aux tractations.
Parce que les épidémies de gastro, ça existe. Là.
Ben, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont le rhume ces temps-ci.
Ben, c'est ça. Puis là, leurs bureaux sont rapprochés. Ben, fait qu'il s'agit qu'ils aient tout touché en même poignée de porte pour aller dans le même bureau.
C'est juste qu'on les croirait pas, là, même s'il y avait une grande diarrhée fulgurante.
Ils sont sept. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'une grande salle de réunion. Ils peuvent faire une réunion dans un bureau. Fait que là, tu sais, celui qui a la gastro touché à poignée en premier,
le
reste.
C'est rendu que tout le monde le sait. Qu'il va y avoir du niaisage, d'aller aux toilettes puis tout ça. OK? Fait que personne, les partis sont pas
c'est
nono.
C'est vrai que t'es pas à l'abri d'un envie soudain. Hein?
Non, mais tu sais, dans les fêtes, ils vont pas essayer de nous faire à croire que c'est un hasard. T'sais, ils vont dire, nous, on pouvait pas appuyer ce budget-là, mais les Canadiens veulent pas aller en élection. Donc, on a fait un vote libre, entre guillemets. Donc, c'est ce qui risque d'arriver, mais le NPD a ouvert la porte à s'abstenir, ce qui ferait en sorte que le budget passerait.
Ouais.
Mais mettons que les libéraux étaient vraiment vlimeux puis qu'ils voulaient partir en élection, eux autres aussi, pour envoyer du monde aux toilettes. T'sais, tout peut arriver encore. Le vote devrait survenir dans les prochains jours, puis on surveille ça. Puis une autre option qui pourrait arriver, c'est que le budget, une fois qu'il passe en comité, puisque ça doit passer en comité, là, à Ottawa, dès qu'il y a un parti qui veut faire des amendements, c'est vu aussi comme un vote de confiance. Donc, on verra si on se retrouve en élection d'ici Noël, mais honnêtement, personne ne veut d'élection. Puis, je veux juste plaider pour le fait qu'il n'y ait pas d'élection. Moi, je ne fais pas partie des gens qui chialent, je veux qu'il y ait des élections. Au contraire, j'adore ça. Puis, moi, je trouve que c'est démocratique.
On fait des soirées électorales, puis on aime ça au bout. On reçoit plein de candidats, on check les sondages.
Mais là, là. On veut pas d'élection au fédéral, pas parce que nécessairement je veux absolument que Mark Carney soit maintenu au pouvoir, c'est pas ça. C'est que la Chambre des communes a été au ralenti pendant un an. Puis je pourrais mettre un petit peu plus parce qu'il y avait blocage à la Chambre des communes. Après ça, il y a eu la crise avec Justin Trudeau. Après ça, il y a eu la démission de Justin Trudeau. Après ça, il y a eu la course à la chefferie. Après ça, il y a eu l'élection. Après ça, il fallait former le Conseil des ministres. Après ça, il y a eu 2 minutes de session parlementaire. Après ça, on est tombé en été.
Puis là, tu sais, je vais prendre un exemple que tu m'as dit. Ouais, un chauffeur à rabais, ça prend combien de temps? Mais c'est normal de prendre du temps de même, mais la Chambre n'est pas ouverte.
Puis tu sais, on pourrait se dire, ben, c'est sûr qu'en crise commerciale comme ça avec les États-Unis, la Chambre des communes, t'sais, le premier ministre fait sa job, ça se passe pas nécessairement à la Chambre des communes. Oui, mais à un moment donné, il faut passer des lois, il faut faire des politiques. Puis tu sais, des fois, on nous fait des annonces, puis après ça, ça chemine pas, ça avance pas. On est comme un peu sans nouvelles de certaines choses. T'sais, c'est bien beau les conférences de presse, mais après ça, est-ce que le projet de loi est adopté? Est-ce que les budgets sont alloués? Est-ce que tout ça, ça se passe aussi la Chambre des communes. Donc, je pense que les Canadiens, ils sont prêts à accepter un budget qui sera pas sexy, dans lequel ils n'auront pas de bonbons. Mais par exemple, ils s'attendent de leur Chambre des communes puis de leur gouvernement à ce que les choses avancent rondement. Puis sur le front de la crise commerciale, ben on sait qu'on contrôle pas tout. Il y a pas beaucoup de gains pour l'instant. Donc, au moins, du côté du budget, on s'attend à ce que le gouvernement Carney fasse la job quand il est question de remettre un peu d'efficacité dans la machine puis de livrer certaines choses en termes de commerce interprovincial, en termes d'infrastructure.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Antonine Iaccarini, je te présente la nouvelle vedette Joe.
Alors, bonjour, je suis Isabelle Poulet. Je suis la candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de La Porte. Alors, j'ai 17 ans d'expérience en politique municipale. Je fais le saut maintenant au provincial. Et 12 ans d'expérience en gestion d'organismes communautaires. Alors, je suis une personne de terrain. Mes enjeux, c'est le redéveloppement du pouvoir Tachereau pour un transport structurant électrique, les logements, le soutien à domicile et le décrochage scolaire. Alors, pour tout ça, pour tous ces enjeux, le 3 octobre, on vote la CAQ.
Alors, c'est Isabelle Poulet, la députée de La Porte, qui fait parler d'elle pour la première fois après 7 ans d'élection.
Sois honnête.
Ouais.
T'avais-tu déjà entendu parler d'Isabelle Poulet?
J'avais jamais entendu parler d'Isabelle Poulet. Jamais de la vie. Écoute, je suis allé voir ce qu'elle a fait à l'Assemblée nationale. Puis son highlight, c'est qu'elle félicite un organisme communautaire de son coin pour ses 15 ans d'existence.
C'est ça. Parce que, bon, il y a les ministres. Après ça, tu as les adjoints parlementaires, tu as les présidents de commission. Puis après ça, il y a une couple de députés qui n'ont vraiment pas grand-chose. Oui. Bon, mais ça en fait partie.
Ça en fait partie. Mais là, elle est devenue la vedette instantanée parce que Isabelle Poulet avait callé une conférence de presse à 9h30 pour dire « Je vais vous parler de mon avenir politique. »
D'habitude, quand on dit « avenir politique », ça veut dire « je m'en vais ».«
Je sacre mon camp ». OK? Et là, soudainement, à 9h21, je ne fais plus de conférence de presse. Et là, on apprend que François Legault veut la rencontrer. Parce que même si Isabelle Poulet, à part sa famille, pas grand monde la connaissait sur, à la colline de l'Assemblée nationale, on se ramasse pareil avec une autre personne qui pourrait quitter. Et ça, ça fera encore très mal à la CAQ et à François Legault.
Ça ajoute au supplice de la goutte. Parce que là, refaisons le bilan là, des députés qui ont quitté. Ça a commencé avec Youri Chassin. Pour des raisons de « je ne me reconnais plus dans ce parti-là ». Et c'était bien antérieur à toutes les crises qu'on connaît actuellement. Donc, c'est vraiment une question de valeur pour Youri Chassin. Après ça, ben on a eu cet automne tout ce qui a entouré le Conseil des ministres. Hein. M. Dufour, député d'Abitibi-Est, qui a été exclu, en fait, pour avoir dit que ça prendrait un ministre dans la région.
Exactement.
Puis on lui a dit « sac ton camp,
puis François Legault, il a dit « moi, je vais aller gérer la région de l'Abitibi, puis Glencore veut s'en aller ».
C'est ça.
Fait quand François Legault touche de quoi, finalement, ça va bien.
Ça serait vraiment juste de lui mettre ça sur le dos. Cela dit, effectivement,
Joël
ça
Boutin,
y fait ça de plus.
Fitzgibbon.
Ouais. J'avais ça au préalable.
La forêt, mais au complet. Là, si on prend ceux même qui se sont vus, se sont fait démissionner, tiens, disons-le comme ça, mais il y en a eu plus que 8.
Il y en a eu antérieurement, mais là, je parle de défection que les députés sont encore à l'Assemblée nationale. Ouais. Fait que là, ils sont dans un corridor. Puis là, là ils ont leur opinion. Puis là, ils se font interroger par des journalistes. Puis là, on fait du potinage avec eux autres. Ça rajoute au grenouillage. Autour du Conseil des ministres, après, on a eu François Bonnardel. François Bonnardel est très fâché de la situation.
Il n'est pas encore parti, mais il est complètement absent. Puis une personne muette comme ça, ben normalement, ça prépare un bon coup.
On s'entend. Après ça, ben, le départ fracassant de Maïté Blanchette-Vézina, qui ne se gêne pas pour dire qu'il va en avoir d'autres très critiques envers le gouvernement.
Qui est folle heureuse comme indépendante. Dès que ça brasse à la CAQ, elle appelle les médias pour dire « Hey, ça me tente de parler! J'ai pas parlé pendant 7 ans. Là, ça me tente! »
Ça me tente de jaser. On en jase, comme on dit.
C'est ça.
Lionel Carman, coup très dur.
Ça a été le coup dur. Là. Ouais. Lionel Carman, un médecin qui n'est pas capable de défendre la loi spéciale 2 auprès de ses collègues et de sa propre famille. Tu fais « Ouais, on est dans le trouble. »
On est dans le trouble. Ça a eu un impact sur les députés. Les discussions au caucus sont très difficiles. Et là, vendredi, il y avait un brefage technique qui était organisé pour les députés par le cabinet de M. Dubé.
Ben oui.
M. Dubé n'est pas allé, mais c'était pas prévu qu'il y aille non plus. Là, c'était prévu que ce soit le directeur de cabinet puis un conseiller qui explique aux députés les détails du projet de loi sous
mais Antonine, t'es la leader de l'équipe, là. T'es la leader d'un parti, d'un projet de loi aussi important. Tu calls une rencontre, mais t'es pas là.
Oui, mais c'est pas lui qui l'a callé, là.
Ouais,
c'est
mais son... quand même.
C'est que.
Tu sais, ça brasse. Carman vient de partir.
On s'entend. Mais Christian Dubé, il fait à peu près 52 entrevues par jour en ce moment. T'sais. Fait que moi, honnêtement, là-dessus, je vais le défendre. Je pense que les députés sentent bien que. En fait, je ne sais pas s'ils le sentent, mais nous, on va le sentir. À chaque fois qu'il y a la moindre critique ou le mécontentement, là, ça prend des proportions très, très grandes parce que la CAQ se retrouve tellement en difficulté qu'on dirait que le jello est pogné. Là. C'est crise, 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 après crise. Fait que moi, le caucus de vendredi, je pensais avec un peu un grain de sel. Mais là, aujourd'hui, avec cette députée Isabelle Poulet qui voulait faire un point de presse, mais qui a été avortée, ça a fait évidemment beaucoup jaser. Et on entend qu'il y aurait d'autres députés qui seraient pas très contents, qui seraient en réflexion et qui ne se gênent pas pour dire qu'ils réfléchissent.
Je vais te faire écouter Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, Mario Asselin, député de Vanier-les-Rivières et Luc Provençal, député de Beauce-Nord, ce qu'ils avaient à dire à leur arrivée au caucus ce matin.
Vous êtes contente de la loi 2, là, de la loi 2. Êtes-vous mécontente de ça?
Il y a de l'amélioration à faire.
Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé avec Mme Poulet ce matin?
Non.
Est-ce que la loi 2 est facile à expliquer à vos citoyens?
Pas simple.
Comment vous l'expliquez aux gens qui
vous
parlent?
J'en
parle
plus pour la démissionner.
Je suis pas rendu là encore.
Luc Provençal de Beauce-Nord, je suis pas rendu là encore. Ça s'en vient, ça veut dire?
Mais c'est vraiment c'est très, très parlant, le choix des mots des députés à l'heure actuelle. Puis c'est vrai que c'est compliqué, le projet de loi 2. Okay, c'est, honnêtement, là, quand tu es député dans ton bureau, là, les appels que tu reçois, tu es aux premières lignes, hein, puis tu te fais interroger par les citoyens.
Mais là, tu sais rien, tu n'as pas d'informations, fait qu'imagine comment tu es dans
le trouble. Ils ont reçu des documents, mais tu sais, je veux dire, Jeff, on suit ça à tous les jours, là.
Ouais.
C'est d'une grande complexité.
Ben ouais,
c'est très difficile de comprendre toutes les nuances de la rémunération pour les médecins. Pour les députés, c'est vraiment un défi. Puis surtout, l'impression générale, c'est une impression de crise, que le gouvernement a bâclé son projet de loi. C'est ça l'impression que ça nous a laissé. Puis je voyais ce matin une étude du HEC qui est sortie sur les différences de rémunération des médecins entre le Québec et l'Ontario qui disait que ce n'est pas si avantageux pour les médecins de partir en Ontario. On le sait, ça, que les médecins sont bien payés. C'est déjà... acquis. Cette guerre de relations publiques-là de la part du gouvernement, elle est déjà gagnée. Là, ce qui reste à régler, c'est les médecins sont fâchés. On sent que tout le monde est très, très loin, très, très intransigeant, puis les patients en payent le prix. Puis l'autre élément qui reste, c'est que le projet de loi a été mal ficelé puis qu'il a été bâclé. Puis ça, là-dessus, le gouvernement, ça lui a fait perdre des plumes. Puis les députés sont aux premières loges pour devoir expliquer pourquoi ce projet de loi-là était donc nécessaire cette semaine-là, sous cette forme-là. Tu sais, il y a une vidéo qui a circulé la semaine passée. C'est les libéraux qui la faisaient circuler. C'est Marc Tanguay qui interroge le ministre de la Santé puis qui dit « Là, il y a une erreur dans le projet de loi. Vous mélangez les radio-oncologistes et les radiologistes. » Et effectivement, ça a été adopté tel quel puis ça avait été souligné par plusieurs journalistes. Mais tu te rends compte que les libéraux l'ont souligné pendant la commission parlementaire puis que le ministre de la Santé a rejeté ça du revers de la main. Fait que là, tu te demandes pourquoi aller si rapidement? Pourquoi avoir laissé passer autant d'erreurs? Moi, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de place pour l'erreur. Et visiblement, les députés ont les mêmes réflexions à l'heure actuelle. Et le leadership de François Legault est de plus en plus fragilisé. Rappelez-vous, Justin Trudeau, l'année passée, c'était des députés complètement inconnus là, qui sortaient dans les médias puis qui faisaient des lettres pour dire qu'il fallait que ça.
Ceux des Maritimes, d'ailleurs.
Ceux des Maritimes. Je me rappelle une députée, justement, de Brossard, dont le nom m'échappe parce que c'est la seule fois que j'ai entendu parler de ma vie, de toute ma carrière d'analyste politique, qui faisait monter, justement, l'eau d'un putsch là, puis de pousser le chef à la sortie. François Legault se retrouve dans la même situation. Puis on nous a tellement mis une date butoir au fait. On a l'impression que c'est la date butoir pour François Legault. Les députés le savent bien aussi. Puis on a l'impression, là, vraiment, qu'il se fait tranquillement pousser vers la sortie.
Vraiment. Antonine Iaccarini, chose certaine, on va avoir beaucoup de choses à parler demain. Le budget fédéral, est-ce que Mme Poulet va avoir démissionné finalement? Puis je suis certain que l'actualité va nous amener plein d'autres sujets.
Pas inquiète. À demain.
Merci pour le caucus. Pascal,
Breaking news en politique. En fait, en ce moment même, commence une mêlée de presse avec France-Hélène Duranceau de la CAQ, donc c'est Conseil du Trésor, puis Christian Dubé à la Santé. On annoncerait deux gestes de bonne foi envers deux groupes, donc la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération en fait des médecins de famille, donc pour 10 000 médecins de famille du Québec, ça s'appelle la FMOQ. C'est une mission de veiller aux intérêts professionnels scientifiques des médecins, donc on dirait qu'on ferait un pas vers eux, mais à suivre pour ce qui sera annoncé. On est là-dedans actuellement, mêlée de presse.
Est-ce qu'on voudrait empêcher la grogne, justement, chez les médecins et là, reprendre le contrôle un peu en disant, bon, ben on va reparler avec les médecins.
Empêcher, c'est difficile. Apaiser, tout. Peut-être.
Oui, apaiser, c'est le plus bon terme, en effet.
Bien, il faut ramener les parties à se parler. T'sais. Puis le projet de loi, il est adopté. Puis là-dessus, honnêtement, ça va être étonnant si on nous annonce qu'on recule sur des éléments qui sont dans le projet de loi. Là, ce que le gouvernement dit, c'est que dans les enveloppes, il reste plein de choses à négocier, mm-hmm. puis il y a des choses à faire qu'on peut attacher des fils ensemble. Mais les médecins, tant qu'il va y avoir le projet de loi qui est adopté avec les mesures coercitives pour les empêcher de quitter, là, ouais. ils vont pas être parlés.
Bien, sais-tu, moi, c'est peut-être là-dessus que je pourrais prétendre. En même temps, là, ça va se dérouler, on va le savoir, mais geste de bonne foi, c'est-tu ouais. d'enlever, justement, la fameuse Gestapo?
Tu peux pas.
Parce que
faut que tu repasses un projet de loi?
Au complet.
Mais bien, faut que tu fasses un autre projet de loi. Parce qu'ils sont passés par la voie législative. Je serais hyper étonné qu'on touche à ce qu'il y a dans le projet de loi. Puis ce que le gouvernement a dit, puis ça se peut. Là,
parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui disaient que c'était pas applicable de toute manière.
Non, c'est pas applicable. Ils se sont donné cette marge de manœuvre-là, mais ils n'allaient pas faire ça. Ils n'allaient pas le mettre en application nécessairement, mais ils ont insulté tous les médecins en mettant ça dans le projet de loi. Mais ce que le gouvernement a dit, c'est qu'on s'est donné cet outil-là, mais on ne veut pas s'en servir. Mais les médecins sont tellement grimpés des rideaux. Là, puis, tu sais, on l'a entendu là, en webinaire, comment la FMSQ qualifiait le projet de loi état policier. C'est terrible, c'est le goulag. Etc. Honnêtement, s'ils ne rechangent pas ce qu'il y a dans le projet de loi, là, j'ai pas trop espoir qu'on arrive à des ententes bientôt.
Ben, gars, vas-tu grâce au Breaking News de Pascal? On va avoir un troisième sujet encore à jaser. Dans...
Hey, oui.
Les médecins, merci Pascal. C'est vite, tu nous tiens au courant durant l'émission, c'est oui. certain. Antonine Iaccarini, je sais que tu es dans le retour tout à l'heure pour parler du budget, justement. Fait qu'on t'écoute aux alentours de 17h30 avec la gang.
Exactement.
De Gravel dans le retour avec Denis en vacances. Au bout du fil, on a une excellente chronique.